La marche du monde.
Annette Becker, donc nous sommes dans la Somme, au pied d'une œuvre qui, au fond, est la dernière image de votre livre, Dernière image de guerre.
Oui, j'ai beaucoup aimé cette rencontre avec l'artiste sud-africain Paul Emmanuel. Paul Emmanuel a voulu, d'une certaine façon, donner son propre corps pour faire comprendre la façon dont les corps des soldats étaient explosés par les obus. Et donc, il a gravé avec un procédé de cire les noms des soldats morts sur son propre corps. Et ensuite, il a photographié cette matrice et les morceaux de son corps sont projetés sur cette soie qui vibre dans le vent. Et donc, on a six morceaux de son corps qui rappellent les corps des soldats disparus, mais qui rappellent aussi dans cette légèreté, dans le vent, que d'abord, ils avaient été en vie et qu'ils avaient été des hommes. Et c'est cela qui me paraît très, très intéressant dans son œuvre, dans sa démarche. Et il a tenu à ce qu'il y ait des noms de Sud-Africains noirs parmi les noms, parce qu'ils ont été totalement, à l'époque, niés. Ils n'étaient même pas enterrés avec les autres. Ils ont été totalement oubliés, ils ont été d'autant plus oubliés qu'on ne les a pas enterrés avec leur nom. On les a mis dans des fosses communes et on les a définitivement oubliés.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
L'installation de l'artiste sud-africain Paul Emmanuel se trouve à Tibval, tout près du monument aux morts. Elle s'intitule The Lost Men, les hommes perdus, et elle redonne une identité aux soldats noirs sud-africains disparus dans la Première Guerre mondiale et ensevelis anonymement dans des fosses communes. Nous y étions en juillet ensemble, Annette Becker, et c'est la dernière photographie de votre livre, Voir la guerre, un livre manifeste. C'est vous qui l'écrivez?
Oui, un manifeste, parce que il y a eu énormément d'images de guerre. La guerre a été vue, mais très souvent, on n'a pas continué à essayer de comprendre ce qui avait été vu à l'époque. Et le manifeste du livre, c'est de dire, voilà, je vais me mettre derrière les yeux de ceux qui ont regardé et qui en ont tiré des photographies, qui ont regardé et qui en ont tiré des dessins, des œuvres d'art, ou des caricatures, ou des objets. Tout ce qui était à portée d'œil devant le regard des contemporains de la guerre. Et puis je me suis éloignée pour voir aussi le regard de ceux qui continuent à regarder la guerre, d'où l'idée de réfléchir aux artistes contemporains comme Paul Emmanuel, qui continue à regarder la guerre. Et donc, on a des yeux qui vont de 1914 à 2014.
Une autre image, d'autres yeux, une illustration d'Oreste Zevola. C'est une tête dessinée d'un trait de crayon, une tête traversée de corps tordus par l'agonie, des corps de soldats tombés au champ de bataille. Et c'est l'affiche du dernier film de Laurent Bécurenard, Of Men and War, des hommes et de la guerre, où l'on découvre une douzaine de jeunes soldats en thérapie à leur retour du front.
I'm sure everybody could agree in this room that in one way, shape or form that what we have is embarrassing as shit, because you feel small. You don't feel like as strong as you used to be. You feel...
Tout le monde serait d'accord ici pour dire que ce que nous ressentons, c'est de la honte, parce qu'on se sent diminué. Moins fort qu'avant, limite défaillant. Je déteste cette sensation, comme cette anxiété à la con. Ça fait chier. Mais ça fait du bien de partager parce qu'on a tous la même histoire. Ça réconforte.
Laurent Bécurenard, vous vous intéressez aux traces psychiques de la guerre, depuis votre premier film d'ailleurs, et c'est une façon de vous interroger sur ce qu'ont ressenti vos grands-pères pendant la Grande Guerre. C'est vous qui le dites en présentant votre film.
Absolument, parce que mes deux grands-pères ont donc été mobilisés pendant la Grande Guerre, et ils se sont mariés en rentrant, Et moi, je les ai pas connus, ils étaient déjà décédés à ma naissance. Mais c'est le silence de leur expérience qui m'a toujours habité. Et il semblerait qu'ils n'aient ni parlé à leur épouse, ni à aucun de leurs enfants, et a fortiori à aucun de leurs petits-enfants.
Un silence qui a donc motivé votre curiosité à recueillir une forme de parole perdue, au fond.
Exactement. Quand j'ai vu les premières images et les premiers reportages sur ces garçons qui avaient exactement l'âge de mes grands-pères quand ils sont rentrés de la guerre et qui rentraient massivement aux États-Unis, eh bien, je me suis dit que c'était là-bas, par décalage, mais auprès d'une population du même âge, que j'allais recueillir une parole que je n'avais jamais entendue.
Laurent Vécurenard et Annette Becker sont dans la Marche du Monde et en cette veille de 11 novembre, nous nous interrogeons ensemble sur ce que montrent les images du temps de guerre, images photographiques, images cinématographiques ou plastiques. Il y a dans mon portefeuille plusieurs photos de mon amour, écrit le poète Guillaume Apollinaire dans ses calligrammes. Il se souvient d'avoir gardé dans sa poche les photos de son amoureuse, comme tellement d'autres soldats partis au front. Et ce sont des milliards de photographies prises et échangées, écrivez-vous Annette Becker, et vous parlez des photographies intimes. Que peuvent-elles bien montrer de la guerre?
Je crois que c'est très important de voir que en guerre, comme le disait Laurent, il y a d'abord des hommes et des femmes, et qui continuent à vivre leur vie. Et cette vie, elle est d'abord auprès de ceux qu'ils aiment, auprès de ceux avec qui ils voudraient tant être. Et les photographies sont des vecteurs de tendresse avant d'être des vecteurs de violence. Parce que bien souvent, les photographies de soldats, on est quand même au début de la photographie. En particulier dans les classes les moins favorisées. Et c'est souvent la première photo qu'on a prise d'eux. Mais ça sera aussi, pour tous ceux qui meurent, la dernière photo qu'on aura prise d'eux.
Et donc c'est presque un talisman, ces photos qu'on prend, et dont on attend aussi le développement. Ça crée de l'impatience, exprimée d'ailleurs par Apollinaire dans ses lettres à Madeleine. Mais comme j'attends avec impatience ces photographies dont vous me parlez, une impatience qui touche à la déraison, l'eau m'en vient à la bouche. Et il ajoute, ma photo t'a fait plaisir. Figure-toi quel plaisir me font les tiennes à moi qui suis ici. J'épie au moyen de la loupe les 1000 détails de mon amour. Alors, c'est extrêmement émouvant, cette photo de l'amoureuse. Mais qu'est-ce qu'elle apporte, au fond, sur le front militaire, cette photo?
Je crois qu'elle montre très bien ce qu'est cette guerre. Ce que sont les flux de la guerre. C'est-à-dire qu'il y a le front militaire où se passe la violence et l'horreur. Il y a le front domestique où se passe le soutien. Le soutien dans l'amour, le soutien quelquefois dans la haine, le soutien du combat et le fait que l'on a un but. Le but, c'est de revenir aussi intact que possible. Cela ne veut pas dire que l'on ne fait pas son devoir patriotique. Apollinaire, par exemple, est engagé volontaire pour la France. Il trouve qu'il est parfaitement de son devoir, plus que de son devoir, de faire la guerre. Cela ne l'empêche pas de penser que s'il n'a pas l'amour de Madeleine et de bien d'autres, à commencer par Lou, eh bien, il ne peut pas continuer. Et les photographies deviennent non seulement des talismans, mais des porte-bonheurs, très souvent. Mais aussi, elles peuvent sauver, littéralement. Combien de soldats racontent que le portefeuille bourré des photos de leur petite amie a fait dévier une balle? On sait très bien que ce n'est pas vrai, mais ils le croient tous. Et ce mythe de la photographie qui défie et qui dévie la mort est, je crois, la preuve de l'importance de l'image publiée, de l'image extrêmement forte de ceux qu'on a laissés derrière.
Laurent Vécurenard, la photographie, elle est abordée une seule fois dans votre film Of Men and War, ce qui veut dire des hommes et de la guerre. Et c'est pendant une séance de thérapie de groupe, puisque vous avez suivi pendant plus de 5 ans, de 2008 à 2013, 12 jeunes Américains de retour des fronts d'Afghanistan et d'Irak. Alors il y a cette scène où un vétéran raconte comment il doit s'occuper des cadavres déchiquetés, retrouver sur le terrain. Et il dit à ses camarades qu'il a fait l'erreur une ou deux fois de regarder les photos retrouvées dans leur poche. Il dit « Ce cadavre sans visage est devenu cet homme-là, marié à cette femme-là, père de ce bébé-là. » Et il ajoute « Erreur grossière, tu peux pas t'attacher à eux, sinon tu pars en vrille. » Que représente cette scène de votre film, Laurent Bécu-Renard ?
En fait, en vous écoutant, je pense à ce que disait juste avant Annette Becker par rapport aux photos qui vont d'un côté à l'autre du front. Et je me disais à quel point c'était un malentendu entre le front et l'arrière, parce que l'homme qui est en photo n'est déjà plus cet homme, il n'existe plus. Là, je parle de psychisme.
Oui.
Et tous mes garçons que j'ai suivis aux États-Unis, tout comme mes deux grands-pères, n'ont pas été blessés, ou s'ils ont été blessés, un de mes grands-pères a été blessé, ça ne se voyait pas. Et ils ont cette image d'eux-mêmes qui est intègre. Et en même temps, ils ne sont plus du tout cet homme-là. C'est surtout à cela que me fait penser la question des photos. Évidemment, dans le contexte du film et du récit que vous évoquiez, le garçon parle d'un cadavre déchiqueté. Et là, évidemment, c'est une image à laquelle on s'attend dans les représentations de guerre.
Oui, mais il se retrouve à ramasser ses cadavres et il tombe sur des photos, en fait, sur ces fameuses photos talismans, finalement, dont on parlait tout à l'heure. Les photos de famille de ce jeune soldat qui pourrait être lui et dont le corps a été totalement détruit par le combat.
Absolument. D'ailleurs, il fouille les poches parce qu'il doit reconstituer pour voir à qui appartient quoi,
voilà.
En fait. Mais c'est le même garçon qui évoque très bien, à un moment donné de sa thérapie, combien le traumatisme vient non seulement, évidemment, de la mort qu'on peut être amené à donner, de la mort de ses camarades autour de soi, mais aussi de la peur de se retrouver soi-même,
voilà,
être ce cadavre en face de vous.
Annette Becker, la photographie, c'est également une arme utilisée par la propagande dans les différents camps pendant la guerre, mais aussi, et vous le montrez dans votre livre, après la guerre, par les pacifistes. Il y a cette affiche de Ernst Friedrich que vous montrez, Guerre à la guerre, et elle date de 1924. Est-ce que ça veut dire qu'avec les mêmes photos, finalement, on peut dire tout à fait autre chose ?
Bien sûr, l'invention de la photographie a été recadrée de la façon dont on voulait montrer quelque chose. Et là, pendant la Première Guerre mondiale, il y a un véritable combat avec les photographies. Celui qui a dit « la photographie est une arme », c'est Ernst Jünger, qui était un combattant extrêmement nationaliste et qui, après la Première Guerre mondiale, a réutilisé des photos prises pendant la guerre et pour montrer la beauté du combat. De l'autre côté, Friedrich, qui a créé à Berlin un musée anti-guerre, au même moment, en 1920, qui s'appelle donc « Guerre à la guerre », a utilisé quelquefois les mêmes photos que Jünger, recoupées autrement, recadrées autrement, pour montrer l'horreur de la guerre. Et d'ailleurs, les photographies ont été extrêmement utilisées dans les années 20, dans des albums où on a recréé la guerre, c'était plus la photographie de l'horreur, c'était la photographie démonstrative. La démonstration est le plus souvent pacifiste, mais elle peut être aussi en l'honneur de la guerre. Donc ce char peut être un char qui ressemble presque à une tête de mort, et donc il y a les morts dans la mort qui est ce char, d'un côté, et de l'autre côté, ça peut être la beauté de la modernité, la beauté de l'acier et la victoire grâce à cet acier conquérant, avec la même photographie. On voit bien qu'il faut analyser avec précision pour voir ce qu'on a vu à l'époque, pour voir ce qu'on a voulu faire passer. Et à la limite, aujourd'hui, quand on regarde les photographies des deux côtés, elles sont aussi horribles l'une que l'autre. Mais c'est pas comme ça qu'on les a vus à l'époque.
Et quand on regarde aussi les photographies que vous montrez, hein, dans ce livre « Voir la guerre », moi je me suis arrêtée sur cette dernière image de ce chapitre consacré à la photo. Elle est très étonnante, c'est celle de blessés africains en convalescence parmi des civils qui les ont accueillis. Donc on voit bien que ce sont des premières photos, ce sont les premiers appareils photos, ce sont les premières rencontres aussi entre les Noirs et les Blancs.
Oui, bien sûr, j'aime beaucoup cette photographie parce qu'elle montre exactement ce qu'est cette guerre mondiale. Ce déménagement du monde absolument incroyable. Jusque-là, la colonisation, bien sûr, a été la grande affaire du 19e siècle et du début du 20e siècle, mais c'était des Blancs qui allaient coloniser des Africains ou des Asiatiques. Et là, on a un retournement. Ce sont des Africains et des Asiatiques qui viennent se battre sur le sol de l'Europe, qui rencontrent des Blancs, et en particulier dans ce petit village du fin fond de la Meuse, personne n'avait jamais vu d'Africain. Et cet Africain est un combattant en uniforme, et un combattant en uniforme blessé.
La rencontre entre les soldats noirs et les Blancs pendant la Grande Guerre, Bakary Diallo, tirailleur africain de 14, s'en souvient.
Quand nous sommes débarqués à Sète, nous avons vu des jeunes filles, parce que c'est toujours des enfants qui commencent des choses comme ça, qui viennent nous serrer la main. En passant, ils nous serraient la main, ils retirent leurs mains, ils regardent si c'est le temps d'aller. Alors, je lui ai touché la main, mais ma main n'est pas loin. Je lui dis, mais moi aussi, ma main n'est pas. Alors, on riait comme ça. Mais c'est tout.
La voix de Bakary Diallo, tirailleur africain en 14, avec l'historien Marc Michel, une archive RFI pour évoquer une présence des soldats noirs que vous abordez également, Annette Becker, à travers un chapitre de votre livre, hein, Voir la guerre, consacré aux caricatures et à la honte noire. Et là, c'est beaucoup moins sympathique que ce qu'évoque Bakary Diallo, puisque ce sont des images incroyables où les noirs sont caricaturés en monstres armés de couteaux. Comment vous pouvez expliquer une telle représentation des tirailleurs africains ?
Alors là, on est dans des représentations de l'ennemi. Et je crois que c'est très important de voir cela, les représentations épouvantables de la honte noire sont des représentations allemandes. Et cela ne veut pas dire que les Allemands sont plus racistes à ce moment-là que les Français, mais chacun utilise la propagande qu'il peut. Et dans la mesure où les Allemands n'utilisaient pas de troupes africaines, du moins en Europe, ils ont utilisé la fibre raciste pour dire « on nous traite de barbares, nous les Allemands, mais qui sont les vrais barbares ?» Les vrais barbares sont les Français et les Britanniques qui ont des troupes africaines et des troupes asiatiques dans leur rang. Et ces barbares ne savent pas faire la guerre, ces barbares utilisent des coupes-coupes. Tout cela est totalement faux, bien sûr, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, les Français, pour réagir à cela, ont dit « Ah bon, nos troupes ont des coupes-coupes ? Eh bien, on va leur en donner des coupes-coupes. » Et donc, Marc Michel, que vous citiez à l'instant, a très bien montré comment on a une espèce de surenchère de représentation du racisme pour démontrer que c'est l'autre, l'ennemi, le barbare. Et ceux qui en font les frais, eh bien, c'est les Africains, avec ces représentations épouvantables d'Africains en train de couper physiquement les Allemands, et puis dans les images de la honte noire qui viennent d'après-guerre de 1919, de 1920, où l'on voit des Africains représentés avec un pénis énorme, violant une femme allemande, et ces images absolument épouvantables vont être utilisées, comme par hasard, en 1933. Immédiatement par la propagande hitlérienne.
On voit bien que les images de guerre, bien sûr, dépassent le temps de guerre, on va y revenir. D'un siècle à l'autre, qu'est-ce que les soldats ont vu de la guerre ? C'est la question que nous nous posons dans la marche du monde avec nos invités, Annette Becker, pour son manifeste d'historienne Voir la Grande Guerre, et Laurent Bécu-Renard pour son film Of Men and War, des hommes et de la guerre. C'est à suivre, juste après les infos sur RFI.
Marche du monde, Valérie Nivelon.
Suite de la Marche du Monde spéciale 11 novembre avec Annette Becker pour son livre Voir la Grande Guerre aux éditions Armand Collin et Laurent Bécurenard pour son film Of Men and War en tournée dans toute la France. C'est du côté des images que nous vous racontons aujourd'hui la guerre à hauteur d'œil. Ce sont vos mots, Annette Becker. Et j'aimerais d'ailleurs avoir votre regard sur cette actualité du 11 novembre en France avec cette entrée quand même des fusillés au musée des armées un siècle après.
C'était une commande du président de la République qui a réfléchi à comment parler de cette injustice incroyable d'hommes qui sont partis à la guerre et qui ont été punis pour simplement être là. Il faut savoir que l'immense majorité des fusillés de la Grande Guerre l'ont été en 14, à un moment où c'était la panique complète. On a cru dans les premières semaines de la guerre que ça allait être terminé. Les Allemands avançaient et avançaient. Et des officiers, finalement, devenus fous par la nouveauté de cette guerre, ont pris des soldats et ont dit « c'est ta faute, tu as reculé, tu es un déserteur », sans aucun jugement. Et ils ont été fusillés. Et puis, il y a la deuxième partie, alors à un autre moment, en 1917, où un certain nombre de soldats ont refusé d'obéir aux ordres stupides, en particulier au chemin des dames, du général Nivelle qui croyait qu'il allait, lui, finir la guerre, ce qui était absolument impossible depuis 14. Et ces hommes, désormais, ont trouvé leur place au musée de l'armée, une place que j'ai trouvée personnellement en visitant ces salles, vraiment très 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 bien pensées, parce qu'on les pense dans l'univers de la guerre. Ils ne sont pas différents des autres, ils sont exactement comme les autres, et à certains moments, ils ont dit non, et c'est peut-être eux qui avaient raison.
Et 639 donc soldats, 639 d'entre eux ont aujourd'hui leur place officiellement dans ce récit national de la Grande Guerre. La guerre à hauteur d'œil, la guerre vue par les soldats, c'est aussi ce que vous cherchez à montrer, Laurent Bécurenard, un siècle après la Grande Guerre. Dans votre film Of Men and War, des hommes et de la guerre, vous donnez la parole aux vétérans américains rentrés du front sain et sauf d'Irak et d'Afghanistan, mais l'esprit en morceaux, consumé de colère et hanté par les réminiscences du champ de bataille. Quel lien faites-vous entre les vétérans américains que vous avez filmés et les soldats de la Grande Guerre? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de commun entre l'expérience des tranchées et cette guerre moderne et technologique menée par les Américains en Afghanistan ou encore en Irak?
Vous savez, les circonstances peuvent avoir changé, les modes opératoires peuvent avoir changé, mais le psychisme humain, il n'évolue pas tant que ça. Et la manière dont, à mon avis, les hommes pouvaient être traumatisés pendant la Première Guerre mondiale et pas sensiblement différentes de celles dont ces garçons l'ont été. Et à tel point que moi j'ai entrepris ce travail il y a une dizaine d'années avec en tête évidemment cette question de qu'est-ce qu'avaient vu, comme disait Annette Becker, mes grands-pères. Et quand je rencontrais dans les années préparatoires au tournage du film, quand je rencontrais des soldats, quand ils me parlaient de leur expérience, et puis ensuite, quand j'ai commencé à filmer la thérapie, cette parole m'était extrêmement familière. Et elle n'aurait pas dû l'être, normalement. Et j'y voyais, moi, combien cela résonnait de ce qui n'avait pas été dit, mais qui avait été éprouvé, et qui, sans doute, avait été transmis intact dans ma famille, comme dans toutes les familles françaises qui ont parcouru le XXe siècle.
La marche du monde.
You have war zone related issues and being hostage to the war zone is not having a life.
Vous êtes les otages de votre expérience du front et ce n'est pas une vie. Ici, vous ne pourrez plus fuir. Des questions?
La voix de Fred Guzman dans le film Of Men and War. Fred Guzman est thérapeute, il est le fondateur du Pathway Home, un centre de prise en charge indépendant en Californie. Fred Guzman est un type extraordinaire et vous vous êtes appuyé sur lui, Laurent Bécurenard, pour filmer de nombreuses séances de thérapie de groupe. Parlez-nous de son expérience, car Fred Guzman est d'abord un vétéran du Vietnam.
Oui, c'est un soldat qui est rentré. Lui, il était dans les renseignements, donc il a été moins exposé au combat que son frère, qui est parti en même temps que lui, qui était en première ligne. Et son frère était rentré traumatisé. Et je crois que Fred, qui avait déjà vécu l'expérience de leur père, qui était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale et qui avait sans doute de très gros traumatismes qu'il répercutait sur ses enfants, eh bien Fred a souhaité créer, mais tout jeune homme, il a fait des études en rentrant du Vietnam, et il a créé les premiers centres au sein de l'administration des anciens combattants américaines, les premiers centres qu'on appelle les National Center for PTSD, donc des centres fédéraux pour le traitement de l'état de stress post-traumatique.
Le syndrome de stress post-traumatique concerne des millions de vétérans de par le monde, et 12 d'entre eux sont dans le film de Laurent Bécurenard.
I see a kid.
J'ai repéré un ado qui était armé. Il s'est mis à tirer sur les nôtres. Et il a fallu le supprimer. À sa silhouette, je me doutais qu'il était jeune, mais pas autant qu'on l'a constaté ensuite en s'approchant.
One was finding that he had to be between 11 and 13, the other one was between like 13 and 15.
Il devait avoir entre 11 et 13 ans et son pote entre 13 et 15.
And you were how old then?
Et toi, tu avais quel âge?
I was about to turn 22.
Presque 22.
First tour, you were running.
Donc ta première fois au front, tu avais 18 ou 19 ans. Un gamin, comme le gamin abattu. Lui aussi était un soldat.
Si on
veut.
C'est un fait.
Un gamin quand même.
And the point is that you're a kid too.
Tout autant que toi.
What other option would you have had?
Quel choix avais-tu?
Aucun.
Right.
Voilà.
He could have just took
out. Il aurait pu descendre d'autres gamins vêtus du même uniforme que toi.
L'expérience du front, l'expérience du face-à-face. J'ai tué un gamin, dit le vétéran américain. C'est peut-être le premier des traumatismes, Laurent Bécurenard, avoir tué.
Bien sûr. Prendre la vie d'autrui, c'est la rupture psychique la plus grande qu'on puisse imaginer. Et dont il est question dans cette scène, et ce à quoi renvoie Fred Gassman, au garçon qui est en thérapie et qui parle à ce moment-là, c'est effectivement que ce sont les fils qui vont faire la guerre au nom du père. Et pourtant, vous voyez, tout au long de ce parcours en thérapie, il ne se défausse pas de leur responsabilité humaine, car finalement c'est quand même eux qui avaient les armes à la main, et c'est eux qui ont été amenés à prendre la vie d'autrui. Si vous voulez, Annette Baker parlait tout à l'heure de se mettre derrière les yeux de ceux qui ont vu.
Oui.
Moi, je me mets devant ces yeux-là. Le dispositif de cinéma que j'ai adopté il y a plus d'une quinzaine d'années avec le premier film de guerre-là, c'est maintenant avec Of Men and War, des hommes et de la guerre, c'est d'être dans l'axe direct de la parole, et une parole qui est en marche, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de décrire des événements, qui pourraient d'ailleurs apporter des témoignages dans la science historique, mais de la mise en mots de ce qui a été éprouvé par rapport à ces événements. Et c'est dans cet axe-là que se situe la caméra, et elle est face aux yeux de ceux qui ont vu ce qu'ils ont vu, et ils créent un langage pour en parler au fur et à mesure du film.
Les tirs autour de nous étaient de plus en plus nourris. C'était une question de minutes. On allait s'en prendre plein la gueule. J'ai dit à O'Hare de descendre. Il s'est levé.
I felt like this mist on my face.
Et là, je sens une éclaboussure sur ma joue.
And I kind of wiped my face off.
Je m'essuie le visage.
It was blood.
C'est du sang.
So I look over to my left.
Alors je me tourne vers la gauche.
And O'Hare is laying on the ground.
O'Hare est à terre.
He'd been shot through the neck.
Le cou transpercé.
Ils sont en pleine séance de thérapie, ils sont des vétérans de la guerre d'Afghanistan et d'Irak, ils sont traumatisés d'avoir tué, ils sont également traumatisés d'avoir vu leurs camarades tomber à côté d'eux. Annette Baker, comme l'a très justement souligné Laurent Bécurenard, bien sûr que l'on peut faire des liens entre l'expérience, le ressenti des soldats dans la Grande Guerre et les ressentis d'aujourd'hui dans les conflits.
Ça m'a particulièrement émue, ce qui vient d'être dit par Laurent, parce que j'ai choisi pour la couverture de mon livre une œuvre très forte, de Konrad Felix Müller qui s'appelle « Soldat à l'asile ». Et il est ce soldat traumatisé, ce soldat qui est dans un asile de fous, où il n'a pas droit à la thérapie. On est en 1918. Il est comme dans une prison. Il est dans la prison de ce qu'il a vu, de ce qu'il ne peut pas dire. Et si je l'ai mis sur la couverture du livre, c'est que ça représentait pour moi vraiment l'horreur absolue de la Première Guerre mondiale. Parce qu'on parle toujours des mutilés, de ceux qui ont perdu une jambe, de ceux qui ont perdu un bras. Mais on pense aujourd'hui qu'il y a eu au moins 10 millions de très graves traumatisés à travers le monde. 10 millions qui étaient soi-disant vivants, mais qui, en fait, ne sont pas revenus de la Grande Guerre.
We heard the B-52s go over us, and then fucking horizon lit up.
On a entendu les B-52 nous survoler, et puis l'horizon s'est enflammé, sous un déluge d'explosions. Ça a brûlé, toute la nuit. Ça fumait toujours le lendemain. Et encore une nuit, un jour, et une nuit. Je me suis dit, merde alors, j'aurais pas voulu être là-dessous. Sauf qu'il faudrait bien y aller, constater les dégâts. Et ça n'a pas manqué. Des mecs ont trouvé ça drôle de sortir leurs flingues, tirer dans le tas et pulvériser les restes encore fumants. J'ai dit, mais ils sont morts, vous êtes tarés. Et eux, ils voulaient notre peau. C'était infect. Un gars s'est acharné sur un cadavre. Il l'a littéralement explosé. Il a pris une grenade, lui a fourré dans la gueule. Il a hurlé, tous à couvert. On a dû le renvoyer à l'arrière. Il avait perdu la tête. Complètement.
Everyone fucking treated me like a hero.
On me traitait en héros.
And I didn't feel like a hero at all.
Franchement, j'avais rien d'un héros.
Ils disaient,
t'auras une médaille. Et moi, putain, ça vous excite, c'est une saloperie. Être au front, c'est que de la merde.
L'Amérique fait ses héros, mais pourtant, ces héros ont perdu la tête parfois sur le champ de bataille. Ils ont basculé dans la violence gratuite et sauvage. C'est une image de la guerre bannie des récits officiels dans lesquels les barbares sont toujours les autres. Pourquoi vous avez tenu à nous faire partager ces paroles, Laurent Bécu-Renard? Ces paroles souvent que vous dites des paroles perdues. Est-ce que c'est toujours cette idée-là?
Oui, il y a une inertie propre à la guerre où la mort appelle la mort. Je n'ai jamais eu le sentiment, pendant toutes ces années que j'ai passées avec ces garçons, qu'un d'entre eux ait pu commettre un crime de guerre. Mais, comme le rappelle souvent Fred pendant la thérapie, tu ne peux pas juger, dit-il à ces garçons, les actes que tu es amené à commettre dans le contexte de la guerre pour te défendre, à l'aune de la moralité qui s'y est quand on est dans la vie civile, à l'arrière.
C'est pour ça que le thérapeute renomme très souvent les choses en disant « tu es un soldat » et il est un soldat en face de toi.
Au moment où il parle de son expérience du front, il était un soldat et il faisait la guerre. Et vous savez, chacun d'entre eux, et je n'ai pas jamais entendu une autre histoire que celle-là, du jour où il pose le pied sur le champ de bataille, le seul but de guerre, c'est de sauver sa peau et de sauver celle de ses camarades, parce que votre peau dépend de la vie de vos autres camarades.
Dans ces séances de thérapie de groupe, dans le centre dirigé par le thérapeute Fred Guzman en Californie, la parole est souvent lente, chaotique, très douloureuse. Et parfois, quand elle se débloque, on a le sentiment que les anciens soldats se retrouvent transportés sur le champ de bataille et qu'ils revivent une scène de violence extrême exactement comme elle s'est déroulée.
A donkey kicking this door, and it wasn't budging. So I just kept kicking the shit out of it.
J'essayais d'enfoncer la porte, mais elle résistait. Alors je me suis acharné dessus. Elle a fini par céder. Elle a lâché d'un seul coup.
And I don't know what she was doing, but there's like this little girl. I'm guessing she was 8 years old.
Et là, je ne sais pas pourquoi, mais il y avait une gamine d'environ 8 ans. Je suppose qu'elle venait m'ouvrir.
But the door just swung open and fucking.
Mais cette putain de porte a valdingué, l'a assommée, l'a projetée contre le mur.
Broke her neck and.
Ça lui a brisé la nuque.
She died instantly.
Elle est morte sur le coup.
My first reaction, I was.
J'ai explosé de colère. Sans même m'approcher, j'ai su qu'elle était morte. J'ai foncé. J'ai attrapé la mère. Elle pouvait pas ouvrir plutôt qu'envoyer sa fille.
T'es fâché contre la mère?
Bien sûr. Comment elle a pu? Si on tambourinait à ma porte, j'enverrais pas ma fille. J'irai moi-même.
Tu es conscient que tu t'en es pris à la mère, car ce qui venait d'arriver t'était insupportable?
Insupportable.
Donc tu t'es défoulé sur elle pour détourner le problème.
Tu dirais que c'était pas sa faute?
Je n'en sais rien, je dis juste que tu as réagi ainsi pour échapper à l'horreur de la situation.
Là, nous avons un extrait de votre film Laurent Bécu-Renard, mais il faut imaginer bien sûr votre travail sur la longueur avec des types aussi qui sortent pour vomir, qui sortent de la salle. C'est très pénible, très, très douloureux. Et est-ce que parfois, ils vous ont demandé, vous, de sortir de la salle, puisque vous, vous étiez en train de les filmer?
Non. Et ça, pour une raison, c'est que dans les dispositifs de cinéma que j'ai mis en place avec De Garlas, le premier film qui était avec des femmes bosniaques qui étaient survivantes de la guerre et qui étaient aussi en thérapie, et avec ce film-ci, il y avait un parti pris que s'il y avait film, ça serait que parce que la caméra jouait un rôle dans le dispositif thérapeutique lui-même. Et tous les garçons qui sont dans le film, ils sont arrivés alors que j'étais là depuis très longtemps. J'avais déjà commencé pour le coup à filmer. Et la caméra faisait partie du dispositif déjà. Et bien sûr, ils auraient pu me demander de sortir à n'importe quel instant. Et d'ailleurs, c'était la règle. Ils pouvaient le demander quand ils voulaient. Mais la caméra et ma présence jouaient un rôle à bien des niveaux, je pense. Et notamment un rôle central dans la reconnaissance, validation. Voilà un tiers absolu. Quelqu'un qui n'a pas d'intérêt dans cette histoire, qui n'est pas en position de les juger, parce que pour eux, il n'est pas vraiment référençable dans le contexte américain. La France, il se la représente de manière très lointaine, et qui a une sorte de contrat moral avec eux, qu'il va suivre leurs paroles du début à la fin, des premiers balbutiements jusque la fin de ce chapitre-là de leur chemin thérapeutique. Et qui ne pose pas de questions, qui est à l'écoute des questions qu'ils se posent eux-mêmes et des réponses qu'ils ont à y apporter, et ce faisant, ne cesse de dire par sa présence quotidienne, sur une immense durée, « Je reconnais qu'il t'est arrivé quelque chose, que cette chose a fait cela de toi, et que cette parole est extrêmement importante pour toi, bien sûr, je le valide, pour moi, et pour tous ceux qui, à l'extérieur, un jour, l'écouteront. »
Des soldats donc traumatisés, quelle que soit la guerre, qu'ils ont fait, des soldats qui tentent de reprendre une vie normale une fois rentrés à la maison.
Crois-tu que la guerre t'a coûté ton mariage?
C'est moi. Je m'en prenais à ma fille, à ma femme. Je leur tombais dessus. Je me réveillais furax, sans comprendre, sans raison. Mec, t'es en vie. Mesure ta chance. T'es rentré. J'étais aveuglé. Je suis resté coincé là-bas si longtemps sans m'en rendre compte.
Coincé là-bas?
En Irak. L'Irak ceci, l'Irak cela, tout tournait autour de l'Irak. Sur la route, des bagnoles trop proches. Putain, je vais me les faire, comme là-bas. Dire aux mitrailleurs de leur en foutre une. Dégage ou je t'éclate. Cette année, au front, j'ai appris à me blinder. Plus rien à battre de rien. Seule la rage me portait.
Trauma takes away a lot from people. It's a violation of what you knew as you. And so you're building again, you know.
Le trauma vous arrache une part de vous. C'est une mutilation de votre identité. Vous allez vous reconstruire. C'est normal que ce soit long.
It can't be a program, it can't be a therapist, or not even a wife.
Ça ne peut pas venir d'un thérapeute, ni de votre femme, ni de vos parents. C'est en vous que vous trouverez votre réconciliation.
Comment survivre ? Pourquoi survivre ? Autant de questions posées par Laurent Bécu-Renard avec son film « Of Men and War ».
Un gars que nous n'avons pas perdu, en fait, qui a vécu, je pensais qu'il allait mourir.
Il y a un type qu'on a réussi à sauver. Pourtant, il aurait dû me claquer entre les doigts. Il était assis à mes côtés quand on a sauté sur la mine.
Both of his femurs in half, both of his tibs in half.
Et il a eu les fémurs brisés, les tibias, les bras, la rate déchirée, la colonne fracturée en trois, la main droite écrasée. J'ai fait son évacuation et le soir à l'hôpital, il respirait à peine, méconnaissable entre les plaies et les pansements. Je l'ai revu un an après, on aurait dit un spectre. Il a été succinct. Paraît que tu m'as bien rafistolé. Rien d'autre. Au moins, il avait survécu, mais le cœur n'y était pas. Sauver ceux qui auraient préféré mourir. Ne pas sauver ceux qui auraient voulu vivre. Et soi-même, toujours rester en vie.
When you come back, sometimes it's why didn't I? You feel like you should have died over there.
Quand tu rentres, tu te dis parfois que t'aurais dû mourir là-bas.
It would have been a hell of a lot easier.
Ça aurait été sacrément plus facile de tomber là-bas et jamais se relever.
La détresse des vétérans filmés par Laurent Bécu-Renard, pourquoi survivre ? Est-ce que cela veut dire que malgré cette thérapie dont évidemment les combattants de 14-18 n'ont pas bénéficié, certains soldats ne s'en sortent pas et n'arrivent pas à reprendre le cours de leur vie, Laurent Bécu-Renard ?
Bien sûr, et puis pour chacun c'est un combat qui durera toute la vie. Mais je voudrais dire une chose, c'est quand on entend les extraits, et d'autant qu'on n'a pas les images de l'incarnation de ces paroles, on pourrait avoir l'impression qu'il ne s'agit que d'une litanie. Mais le travail du thérapeute et le travail de ces garçons, et derrière évidemment l'amplification que le montage donne à ce travail, c'est de chercher en eux ce qui demeure vivant, quoi qu'il en soit. Et il y a une grande humilité dans le travail thérapeutique. Il n'y a pas de prétention à la guérison. C'est comme une amputation, Annette Becker le rappelait tout à l'heure. Et elle ne se voit pas, mais c'est une amputation psychique. On ne reviendra pas en arrière, il n'y a pas de guérison. Par contre, puisqu'ils sont vivants physiquement, le travail du thérapeute et le leur, c'est de chercher où est le vivant qui demeure, dans lequel il pourrait enraciner une vie à venir qui permettra à la lignée de survivre. Et il faut s'imaginer que, effectivement, moi, il s'agit de mes grands-pères, mais tous ceux qui nous écoutent ont des ancêtres au XXe siècle qui ont traversé toutes ces grandes catastrophes.
Et ont des frères, ont des maris, ont des enfants qui sont sur le front actuellement aussi.
Absolument. Et tous ces hommes doivent chercher en eux ce qui demeure d'humain et qui reste vivant et qui permet de reconstruire une vie. Et c'est là le chemin que suivent chacun de mes garçons, accompagné par Fred Guzman.
Et la caméra aussi apporte cette lueur d'espoir. Annette Becker.
Je pense exactement la même chose. Je pense que, d'une certaine façon, on ne revient jamais de la guerre et que la guerre n'est jamais finie. Mais que le monde sans guerre, c'est le monde où les hommes et les femmes et les enfants peuvent vivre ensemble. Et donc, revenir de la guerre, c'est retrouver la société civile d'où on était parti pour un certain temps. À part les soldats de métier qui sont très peu nombreux, personne n'est soldat de métier. Mais tout le monde est homme et femme. Et revenir de la guerre, c'est retrouver une façon de vivre ensemble en sachant très bien qu'on en a laissé un petit peu quelque part sur le champ de bataille.
Merci, Annette Becker. Je rappelle votre livre « Voir la guerre » aux éditions Armand Collin et l'exposition « Vue du front » dont vous êtes l'une des commissaires scientifiques à l'hôtel des Invalides à Paris. C'est jusqu'au 25 janvier 2015. Quant à votre film « Of Men and War », ce qui signifie « des hommes et de la guerre », Laurent Bécurenard, je précise que nous nous sommes permis bien sûr de faire une traduction en français, mais le public peut le découvrir en version originale sous-titrée. Vous continuez votre tournée dans toute la France et le 11 novembre, je crois, vous serez à Caen.
Hérouville-Saint-Clair, au Café des Images.
Donc le 11 novembre à Caen et surtout à Paris, tous les jours au cinéma du Panthéon et pour très longtemps, donc allez-y. Merci beaucoup de votre présence et merci aux équipes de France Bleu Aix-en-Provence d'avoir assuré ce duplex avec vous, Laurent Bécurenard. Voir la guerre, c'était une édition de La Marche du Monde réalisée par Cécile Pompéani. Retrouvez-nous sur RFI.fr, écrivez-nous sur Facebook, podcastez. Cette émission, c'est la vôtre.